Chapitre 2, le jardin d'enfants. De 1922 à 1923. De 6 à 7 ans. Je n'avais que 3 ans, en 1920, lorsque l'aîné des enfants de ma mère, Astrid, ma propre sœur, mourut d'une appendicite. Elle avait alors 7 ans, l'âge même de ma propre fille aînée, Olivia, quand elle mourut de la rougeole, 42 ans plus tard. Astrid était de loin la favorite de mon père. Il éprouvait pour elle une adoration sans bornes et sa mort soudaine lui ôta littéralement la parole durant de longs jours. Il était à ce point terrassé par le chagrin que lorsqu'il fut lui-même atteint d'une pneumonie environ un mois plus tard, il ne se soucia guère de vivre ou de mourir. Si la pénicilline avait existé en ce temps-là, ni l'appendicite ni la pneumonie n'auraient constitué une véritable menace. Mais sans pénicilline ou autre traitement magique aux antibiotiques, la pneumonie en particulier était un mal redoutable. Le malade, vers le quatrième ou le cinquième jour, atteignait invariablement le stade que l'on appelait la crise. La température montait en flèche et le pouls s'accélérait dangereusement. Le patient devait lutter pour survivre. Mon père refusa de lutter. Il pensait, j'en suis sûr, à sa fille bien-aimée. Il avait envie d'aller la rejoindre au paradis. Il mourut donc. Il était âgé de 57 ans. Ma mère avait ainsi perdu une fille et un mari en l'espace de quelques semaines. Dieu seul sait ce que fut pour elle l'épreuve de cette double tragédie. Cette jeune Norvégienne, en pays étranger, devait brusquement affronter les plus graves problèmes et les plus grandes responsabilités. Il lui fallait s'occuper de 5 enfants, 3 à elle et 2 de la première épouse de son mari, et, ce qui rendait la situation plus difficile encore, elle attendait un autre bébé qui devait naître 2 mois plus tard. Une femme moins courageuse aurait certainement vendu la maison, fait ses bagages et serait retournée tout droit en Norvège avec ses enfants. Là-bas, dans son propre pays, son père et sa mère étaient prêts à l'aider ainsi que ses 2 sœurs célibataires, mais elle refusa cette solution de facilité. Son mari avait toujours affirmé de la façon la plus catégorique qu'il tenait à ce que tous ses enfants fassent leurs études dans des écoles anglaises. C'étaient les meilleurs du monde, disait-il, bien meilleurs que les norvégiennes, meilleurs même que les écoles galloises, en dépit du fait qu'il vivait au Pays de Galles et que son affaire y était située. Il affirmait qu'il y avait quelque chose de magique dans les établissements scolaires anglais et que l'instruction qu'il dispensait avait permis aux habitants d'une petite île de devenir une grande nation, de créer un vaste empire et de produire également la plus grande littérature du monde. Aucun de mes enfants ne cessait-il de répéter, n'ira en classe ailleurs qu'en Angleterre. Ma mère était bien décidée à respecter les volontés de son défunt mari. Pour y parvenir, il lui faudrait quitter le pays de Galles et aller s'installer en Angleterre, mais elle n'était pas encore prête pour ce grand changement. Elle devait rester encore quelque temps au pays de Galles, où elle connaissait plusieurs personnes susceptibles de l'aider et de la conseiller, en particulier le grand ami et associé de son mari, M. Adnesen. Mais il était néanmoins indispensable qu'elle s'installe dans une maison plus petite et d'entretien plus facile. Elle avait suffisamment de travail avec ses enfants sans avoir en plus à s'occuper d'une ferme. Aussi, dès la naissance de son 5e enfant, encore une fille, elle vendit la vaste demeure pour aller vivre à quelques kilomètres de là à Llandaff. Cumberland Lodge était simplement un pavillon de banlieue de dimension modeste. Ce fut donc à Llandaff, 2 ans plus tard, alors que j'avais 6 ans, que je me rendis en classe pour la première fois. L'école était un jardin d'enfants dirigé par 2 sœurs, Madame Caulfield et Miss Tucker, et elle s'appelait la maison de l'Orme. C'est étonnant à quel point on se rappelle peu de détails sur sa vie avant l'âge de 7 ou 8 ans. Je peux vous raconter toutes sortes de choses qui me sont arrivées à partir de l'âge de 8 ans, mais pratiquement aucune avant. J'ai fréquenté la maison de l'Orme durant toute une année, mais je ne me rappelle même pas la salle de classe. Je ne parviens pas non plus à évoquer les visages de Madame Caulfield ou de Miss Tucker, tout en étant sûr qu'ils étaient d'une douceur souriante. Je me revois vaguement, assis dans l'escalier, m'efforçant sans succès de nouer un de mes lacets de chaussures. Mais après de si longues années, ce sont les seules images de l'école qui me reviennent en mémoire. En revanche, je me rappelle parfaitement les trajets entre la maison et l'école, parce qu'ils étaient terriblement excitants. Les émotions fortes sont les seules sans doute qui marquent vraiment un petit garçon de 6 ans, et elles restent gravées dans son esprit. Dans mon cas, l'objet de mon enthousiasme était mon nouveau tricycle. Je le prenais tous les jours pour me rendre à l'école, en compagnie de ma sœur aînée, montée elle aussi sur le sien. Aucun adulte ne nous accompagnait, et j'ai un souvenir, oh, tellement vivace, des courses que nous faisions tous les deux au milieu de la route et des vitesses terrifiantes qu'atteignaient nos tricycles. Plus enivrant encore, lorsque nous arrivions à un tournant, nous nous penchions d'un côté pour le prendre sur deux roues. Tout ceci, il ne faut pas l'oublier, se passait au bon vieux temps où l'apparition d'une voiture à moteur dans la rue était un événement. Et deux petits enfants en route pour l'école, qui pédalaient sur leur tricycle au beau milieu de la route en poussant des cris de joie, ne couraient aucun danger. Voilà donc les souvenirs que j'ai gardés du jardin d'enfants et qui remontent à 62 ans. Ils ne sont pas nombreux, mais c'est tout ce qui me reste.